bien. Vous passez une bonne soirée. Je voulais partager encore quelque chose avec vous ce soir, alors ce ne sera pas très long. Mais je pense qu'on a quelque chose qu'on peut vivre, en tout cas dans ce travail sur l'intimité avec le Seigneur. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi et plus pris conscience aussi de ce que ça voulait dire le jour où je me suis présenté devant mon épouse qui était habillée tout en blanc et où du coup on s'est engagé l'un envers l'autre. On a formé quelque chose que la Bible appelle une alliance. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur l'alliance que Dieu a établie entre lui et moi. Et je vous racontais, pour ceux qui étaient là cet après-midi, que moi, j'avais une relation avec Dieu à l'époque qui était plus basée sur un contrat que sur une alliance, où Dieu avait des obligations et puis moi j'avais des obligations et chacun tenait sa part du marché et du coup tout allait bien. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie chrétienne n'est pas fondée sur un contrat, mais il est fondé sur une alliance. Je voulais revenir on parlait ce matin de ce verset dans Genèse qui dit qu'un homme se sépare de son père et de sa mère, qui s'attache à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et le fait, ce mot attaché, en fait, c'est un mot qui est très fort. Et littéralement, ça signifie se coller à. Donc l'homme se sépare de son père et sa mère, et il se colle à sa femme, et les deux ne font plus qu'un. Et donc je racontais ce matin comment une nouvelle entité est créée à ce moment-là. Il y a un cercle d'amour et de don de soi mutuel à l'image de la Trinité qui est mis en place. Et c'est pour ça que ces deux personnes, tout en gardant leur individualité, deviennent une seule entité. Deux personnes, une seule substance. Alors je disais que l'amour se multiplie autour. Mais même si on n'a pas d'enfant en fait, en tant que couple, on est appelé à porter cette image de Dieu dont on a parlé ce matin, qui est dans la Genèse, où Dieu crée l'être humain, homme et femme. On est appelé à porter cette image de Dieu pour un monde qui a désespérément besoin de connexion, qui a désespérément besoin d'amour. Moi, quand j'étais tout jeune étudiant à Paris, j'ai beaucoup reçu des familles et des couples qui étaient autour de moi dans ma communauté. Moi, j'étais seul, je venais d'un milieu familial assez tribal, assez cocon. Et du coup, je me retrouvais propulsé dans la capitale parisienne tout seul. Et j'ai trouvé du coup dans les amis que j'avais au niveau de l'église, dans les familles qui m'accueillaient à table chez eux, qui me prenaient du temps pour prier avec moi, qui prenaient du temps pour m'accueillir, j'ai trouvé un réconfort, j'ai trouvé une image aussi de l'amour que Dieu a pour nous et comment Dieu nous fait entrer aussi dans son cercle familial. En tant que corps de Christ, on est aussi appelé à être un cercle d'amour. On est beaucoup de différences, de personnes différentes, de personnes uniques, de personnes qui ne s'entendent pas toujours, mais en même temps, la Bible insiste sur le fait qu'on est un seul corps. On est appelé à être plusieurs personnes, mais une seule entité. Et nous aussi, plus nous nous aimons, et plus l'amour se multiplie, et plus il y a des gens qui rejoignent le corps. C'est Jésus qui dit ça quand il prie dans Jean 17, au chapitre 17, au verset 21. Il dit, Seigneur, je te demande qu'ils soient tous un, et comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. On essaie souvent d'avoir plein d'outils d'évangélisation très sophistiqués, mais en fait, la stratégie de Jésus est très différente. Il dit, mais c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra qui je suis et qu'il croira. Et peut-être qu'il faudrait qu'on change un petit peu nos stratégies et qu'on revienne à ce que Jésus nous a montré. C'est dans l'amour qu'on a les uns pour les autres que les personnes qui ne croient pas en lui vont être attirées à lui. Devenir un, c'est le travail d'une vie entière. C'est pas juste de s'engager un jour lors du mariage, c'est pas juste de donner son cœur à Jésus, c'est pas juste de rejoindre une communauté chrétienne. Devenir un, c'est le travail d'une vie entière. Et en fait, il y a une partie où ce sera jamais réalisé complètement de ce côté-ci du ciel. Et je pense que c'est bien d'en avoir conscience, parce que ça va nous aider dans les périodes où cette unité est mise à mal, dans toutes les relations, que ce soit dans notre relation avec Dieu, dans la relation avec notre conjoint, dans la relation avec les gens de notre église. Il y a des hauts et puis il y a des bas, il y a des choses très belles et puis il y a beaucoup de choses imparfaites. Il y a quelque chose vraiment divin et puis il y a aussi quelque chose de très très bassement humain, et c'est normal, tant qu'on est sur terre ce sera comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner comme objectif dans ces relations cette unité, qu'on puisse progresser ensemble tout au long de notre vie sur terre vers cette unité. Alors qu'est-ce que c'est une alliance? Alors j'ai relevé plusieurs définitions qui m'ont parlé. Une alliance, c'est un engagement solennel qui lie deux ou plusieurs parties entre elles. Une alliance, c'est aussi une promesse de loyauté totale. Une alliance, c'est l'identification totale à une autre personne. Une alliance, c'est un engagement qui va au-delà de tous les autres et qui n'a pas de fin. Il y a une grande différence entre une alliance et un contrat. Quand je conclue un contrat, je le conclue en vue de préserver mes intérêts. Alors que quand je conclue une alliance, je le fais au bénéfice de la personne envers qui je la fais. Imaginez que je me sois présenté il y a un peu plus de 2 ans et demi, le jour de mon mariage, devant ma femme, et puis que je lui ai dit « Ma chérie, je te promets, en ce jour, devant tous nos amis, devant notre famille rassemblée, je te promets que tu vas m'aimer. Et je m'engage envers toi à ce que tu prennes soin de moi, dans les bons comme dans les mauvais jours, tu vas me faire de bons petits plats, tu t'occuperas des tâches ménagères, et tant que tu le feras, moi aussi je vais t'aimer. » Connaissant mon épouse, je pense qu'elle aurait du mal à acquiescer. Et pourtant, on considère souvent notre relation avec Dieu et notre alliance avec Dieu comme ça. On s'occupe de tout ce que Dieu va nous apporter, on essaye de notre côté d'être à la hauteur, de remplir les exigences de Dieu, mais en échange, on s'attend à ce que Dieu remplisse sa part du contrat. Une alliance, c'est pas pareil. Dans une alliance, il y a une dimension qui est verticale et une dimension qui est horizontale. Souvent, c'est une alliance envers quelqu'un, par exemple dans le mariage, et c'est aussi une alliance qui est faite devant Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre du mariage, il y a un pasteur qui pose les questions, parce que les mariés, ils pourraient se débrouiller entre eux. Mais en fait, il y a une troisième personne. Il y a cette corde à trois brins dont la Bible nous parle. Dans une alliance, en fait, il n'y a pas qu'une dimension horizontale, il y a une dimension qui est verticale. Et dans l'Église aussi, dans le corps de Christ, il n'y a pas que cette dimension verticale de la relation à Dieu, sinon on pourrait rester chez nous. Il y a aussi cette dimension horizontale, en fait, de ce qu'on partage les uns envers les autres, de l'engagement qu'on va prendre pendant un temps donné les uns avec les autres, où on va aller ensemble dans la même direction. On est un peuple de l'Alliance. L'Alliance, elle nous dit, si quelqu'un vient contre toi, je vais venir te défendre. C'est un terme militaire, en fait. C'est pour ça que le jour du mariage, on dit dans la maladie, dans la santé, la richesse, la pauvreté, s'il y a quelqu'un qui vient contre toi, je vais venir te défendre. Une alliance, c'est pas juste la reconnaissance d'un lien présent, c'est un engagement pour un lien futur. Dans une alliance, on n'envisage pas l'échec. Encore une fois, si j'étais venu voir ma femme puis que je lui avais dit « Ma chérie, je vais essayer de t'aimer. Je prendrai soin de toi si je ne suis pas trop fatigué. » Je pense que ma femme n'aurait pas accepté non plus cet engagement à demi-mot. Et c'est pour ça aussi que quand on fait les vœux du mariage, en fait, ça nous paraît bien souvent utopique. Parce que justement, cet engagement est fait pour que ça nous dépasse. C'est fait pour poser quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on est capable d'accomplir. En fait, c'est justement cet engagement et les mots qu'on a mis sur cet engagement qui vont nous aider dans les périodes où cette alliance sera mise à mal. Quand on sera dans des soucis au niveau conjugal, on se rappellera de l'alliance qu'on a passée l'un envers l'autre. On se rappellera de Dieu qui était témoin de l'alliance. Et du coup, on continuera. Dans Ésaïe au chapitre 55, au verset 3, c'est Dieu qui parle et qui dit « Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez, car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. » Une alliance éternelle. Une alliance, on disait tout à l'heure déjà, c'est pas censé avoir un terme. Mais là, c'est une alliance éternelle que Dieu s'engage à avoir avec nous. Dieu nous dit, mais quand tu seras au bout du rouleau, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je serai de ton côté. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une des deux parties qui ne respecte pas l'engagement d'un contrat? Le contrat est caduque, c'est fini, terminé. Chacun rentre chez soi, on va éventuellement devant la justice pour obtenir réparation. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une des deux parties qui ne respecte pas son engagement dans l'alliance? Dieu répond à ça dans 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 13. Et c'est Paul qui nous parle de ça. Il dit, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle parce que c'est dans sa nature d'être fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Ça veut dire que l'alliance que Dieu établit avec nous, en fait, elle est toujours vraie du côté de Dieu. Ça veut dire que la main de Dieu est toujours ouverte. Ça veut dire que la porte de Dieu est toujours ouverte quand on veut revenir vers lui. Notre attitude ne va jamais changer l'amour de Dieu envers nous, ni les engagements qu'il a pris. Et après, c'est nous qui décidons de nous mettre au bénéfice de ce qu'il a accompli ou pas. Pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait un accord et que les deux parties s'engagent. Dieu fait toujours le premier pas. Il te choisit avant la fondation du monde. C'est comme si, vous savez, au poker, il posait son jeu sur la table. Je ne sais pas si vous jouez au poker des fois. Mais en fait, vous pouvez, en fait, à certains moments, quand les deux joueurs ils ont décidé de mettre tapis, en fait, on n'attend pas tous les tours. Tout le monde pose ses cartes sur la table et là, on voit en fait le jeu de chacun. Et c'est un peu ce que Dieu il a fait au tout début, quand il a fait le premier pas. Avant la fondation du monde, il nous a choisis, il nous a destinés par avance, c'est ce qu'on disait. Et il a posé son jeu sur la table. C'est clair, il n'y a pas de piège ou de choses cachées en fait. Dieu a posé son jeu sur la table et la preuve de ça c'est que Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix. Et ensuite, c'est notre réponse qui va conclure l'alliance avec lui. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'alliance. On disait ce matin, hein, si c'est obligé, s'il n'y a pas un choix, une décision de notre part, c'est pas de l'amour. On a la possibilité de refuser cette alliance ou on a la possibilité de s'y engager et de recevoir pleinement les bénéfices de cette alliance. Si j'étais venu voir ma femme, encore une fois, et puis que je lui ai dit « Ma chérie, j'ai bien compris. » Ou plutôt si ma femme était venue me voir, on va changer, parce que c'est toujours moi qui me fais avoir après. « Mon chéri, j'ai bien compris que tu veux te donner entièrement à moi. Alors écoute, le plus simple, c'est que tu fasses directement un virement sur mon compte personnel tous les mois pour que je puisse utiliser ton argent le plus vite possible. Je pense qu'on pourrait garder chacun notre appartement. Comme ça, moi j'ai besoin de mon espace vital, donc on pourrait se voir par exemple le mardi soir, une fois tous les 15 jours. Parce que je suis plutôt libre le mardi en fait. Le lundi j'ai piscine, le mercredi je vais au cinéma et du coup le mardi ça conviendrait plutôt bien. Si on avait commencé à poser des exigences comme ça dans notre couple, je pense que ça n'aurait pas été très loin. Et là, c'est moi, je pense, qui aurait été plutôt insatisfait. Et Dieu s'est engagé totalement envers nous, en fait, et ça requiert aussi un engagement total de notre part. En fait, même si ma femme s'était mariée avec moi, puis que j'avais accepté le marché, c'est-à-dire juste une fois tous les 15 jours, on n'habite pas ensemble, on ne partage pas notre argent... En fait, c'est ma femme elle-même qui se serait privée des bénéfices et du privilège de l'alliance qu'on allait former. Pourquoi ? Parce que notre relation, elle risque pas de grandir avec une soirée tous les 15 jours. La proximité relationnelle dont on peut bénéficier aujourd'hui, c'est parce qu'on vit ensemble, on partage nos matins, nos soirs, nos nuits, nos jours de grâce et nos jours de pluie. Et c'est cette proximité qui va faire qu'il y a une vraie relation et qu'il y a un bénéfice à cette alliance. Et avec Dieu, c'est pareil, en fait. Ça ne suffit pas que ce soit juste un moment dans le temps, que ce soit juste à certains moments, à certaines périodes, quand je vais bien, quand je n'ai pas trop de travail, quand les enfants me laissent un peu de temps, quand on peut trouver des tonnes et des tonnes d'excuses. Hein. Vous vous souvenez de cette parabole qui disait, bah oui, mais attends, j'ai acheté un champ, là, je ne peux pas trop venir tout de suite. Et puis, je vais me marier, donc tu comprends, je ne peux pas trop venir à ton repas. Et tu comprends, il faut que j'ai acheté une nouvelle paire de charrues, de joues pour mes bœufs. Il faut que j'aille les essayer. Et puis, la personne qui fait le banquet va aller chercher par les rues et par les places tous ceux qui veulent bien venir. Et j'ai déjà entendu souvent dans certains milieux chrétiens, l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, mais sa bénédiction est conditionnelle. Alors je pense qu'il y a une théologie qui est assez malsaine dans cette phrase, et je ne pense pas que ce soit vrai, parce que la Bible nous dit que Dieu est celui qui est bénédiction, qui fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. La bénédiction de Dieu, elle ne s'arrête pas suivant ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, elle est offerte en Jésus comme son amour. On lisait Éphésiens 1 toute cette journée, c'est un chapitre qui est accompli pour chaque être humain. Mais maintenant, en fait, c'est notre réponse qui va conditionner si on rentre dans les bénéfices de cette alliance que Dieu a conclue pour nous ou si on passe à côté. On ne peut pas avoir cette intimité avec Dieu sans faire alliance avec lui. Pourquoi est-ce qu'on insiste tellement dans nos milieux chrétiens sur le fait que l'intimité physique dans le couple, ça, c'est réservé pour le mariage ? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un désir dans notre monde, il y a une soif d'intimité, mais sans l'engagement en fait qui va avec cette intimité. Il y a un désir de proximité, mais sans un engagement à vie qui va sécuriser cette proximité. Et en fait, on s'approche de Dieu comme si c'était une relation facile ou quelque chose où on voudrait les bénéfices en fait de la relation avec Dieu, sans payer le prix qui va aussi avec cet engagement avec Dieu. On ne peut pas avoir d'intimité avec Dieu sans faire alliance avec lui. L'amour de Dieu est inconditionnel pour nous, mais la manière dont sa bénédiction va atteindre nos vies, elle est proportionnelle à notre réponse à son alliance et à notre engagement envers lui. C'est ce que disait, plus je perds et plus je gagne en fait. Tout ce que je perds pour le royaume, je le récupère au centuple. C'est moi qui décide à quel point, en fait. Quand on entre dans cette alliance avec Dieu, en fait, nos intérêts personnels, nos petits royaumes, toutes les choses qu'on essaie de construire, où on essaie d'avoir nos petits noms qui brillent en haut de l'affiche, ou toutes les choses qu'on essaie d'avoir pour avoir de la reconnaissance, etc. Tout ça disparaît parce que ce qu'on prend à cœur, finalement, c'est les intérêts de Dieu et du royaume de Dieu. Et on ne réfléchit plus en se disant comment est-ce que je vais me placer, comment est-ce que je vais essayer d'être devant, comment est-ce que je vais essayer d'être reconnu. Mais on réfléchit en disant mais qu'est-ce qui est mieux pour toi, Seigneur ? Comment est-ce que ton royaume peut avancer le mieux possible et comment est-ce que je peux servir ce royaume ? Et on met de côté ses propres intérêts pour penser aux intérêts de Dieu. Paul disait à Timothée, il n'y a personne ici qui prend à cœur les intérêts de Christ. Ils sont tous en train de courir et de s'occuper de leur propre vie. Finalement, il n'y en a aucun qui s'occupe des intérêts de Jésus. Et ce verset il m'a transpercé quand je l'ai lu et j'ai prié et j'ai dit « Seigneur, je ne veux pas être comme les personnes dont Paul est en train de parler. Je veux m'occuper des intérêts de Jésus comme étant la priorité dans ma vie. » J'ai lu un chapitre dans un livre il y a quelques années qui m'a bien marqué. C'était un livre en fait qui décrivait les parallèles entre l'Église messianique comment en fait les coutumes un petit peu de l'Église juive des premiers siècles, quel sens ça avait par rapport à nous aujourd'hui. Et donc c'est un livre qui s'appelait L'Église messianique se lève. Et donc il y avait tout un chapitre où il décrivait un petit peu cette dimension de l'alliance. Et il notait 5 points qui m'ont plutôt marqué en prenant en exemple l'histoire de Jonathan et David, que vous connaissez. Vous savez que Jonathan, le fils de Saül, va flasher sur David et il va se dire « Mais celui-là, je veux que ce soit mon ami, je veux que ce soit mon frère. » Et puis il va lui offrir ses armes, et puis ils vont faire une alliance ensemble. Et il y a un lien d'amitié, de fraternité qui va être posé entre eux. Et cette alliance, en fait, dans les coutumes de l'époque, il y avait plusieurs choses qui étaient importantes. La première chose, c'était le prix de cette alliance. Une alliance, ça a toujours un coût, ça implique un engagement et un don total de soi. Et on va voir dans l'histoire de David et Jonathan comment, dans les chapitres qui vont suivre l'alliance que David et Jonathan font ensemble, Jonathan va devoir se dresser entre Saül et David. Il va devoir se lever pour défendre David. Il va mettre sa vie en jeu pour que David puisse s'enfuir. En fait, Saül va vouloir clouer Jonathan avec sa lance contre le mur quand Jonathan va dire qu'il est pour David. Jonathan va honorer cette alliance parce qu'elle a été conclue devant Dieu, mais il va mettre en jeu aussi sa place sur le trône d'Israël. Il était l'héritier de Saül et il va choisir, à cause de l'alliance qu'il a passée avec David, de déserter ce trône pour que David puisse y monter. La question que Jonathan va se poser, c'est pas qu'est-ce que je peux gagner dans cette relation, mais c'est qu'est-ce que je suis prêt à offrir. Jésus aussi a évalué le coût de l'alliance qu'il allait conclure avec nous. C'était à Gethsémané. À Gethsémané, Jésus a pris la pleine mesure du prix qu'il allait payer pour entrer dans cette alliance avec nous. Dans les coutumes de l'époque, il y avait aussi un échange qui se produisait dans l'alliance, pour célébrer l'alliance. Et là, Jonathan et David, ils vont procéder à des échanges. Et c'est des échanges qui ont une signification. Ils décrivent quelle est la nature de l'alliance que ces deux hommes ont conclue. Ils vont échanger des vêtements. Les vêtements, ça représente l'identité de David et l'identité de Jonathan. C'est comme si David et Jonathan, ils échangeaient leur identité. On sait que David, à l'époque, c'est juste un simple berger. Et il avait sûrement des vêtements usés, déchirés, parce qu'il était pauvre. Il vivait la plupart du temps dehors. Il n'avait sûrement pas plein de tuniques royales. Et Jonathan, lui, c'était le fils du roi. Donc il avait sûrement des très beaux habits, avec des tissus raffinés, des broderies, etc. En fait, quand les gens croisaient Jonathan, ils n'avaient aucun doute sur le fait que c'était le fils du roi. Et quand ils croisaient David, ils n'avaient aucun doute qu'ils avaient croisé un petit berger. Et là, en fait, Jonathan et David vont échanger leurs vêtements. C'est comme si ce qui se passait dans cette alliance, c'est qu'ils disaient « Mais je me suis tellement identifié à toi que ce qui est vrai te concernant est maintenant vrai me concernant. » Et Jésus a fait pareil avec nous. Il a pris notre vêtement de pécheur pour que nous puissions nous revêtir de son vêtement de justice. Il a pris notre manteau de mendiant et nous a revêtus comme des fils et des filles de roi. On chantait tout à l'heure, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a un échange d'identité qui s'opère entre Christ et moi. Il prend ma nature de pécheur et je reçois sa nature parfaite. Jonathan et David, ils vont échanger leur ceinture aussi, et la ceinture, c'est le symbole de la force. Ça veut dire ma force est maintenant ta force. Quand tu seras faible, je serai là pour toi. Et c'est aussi quelque chose que Jésus va dire pour nous. Si tu es faible, moi je serai ta force. Dit autrement, mais ma force s'accomplit pleinement dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit. Et puis Jonathan et David, ils vont aussi échanger leurs armes. Alors là, c'est un symbole aussi clair. Ça veut dire on a les mêmes ennemis. Jonathan va donner à David son épée de prince et David il va donner sa fronde, j'imagine, à Jonathan. Et donc ça veut dire les ennemis que ton arme combattait, c'est maintenant mes ennemis. Donc si des ennemis t'attaquent, c'est comme s'ils m'attaquaient moi. Je viendrai te défendre. Et on disait tout à l'heure, Jonathan a dû se lever contre son propre père pour protéger David. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus devient l'ennemi de nos ennemis. Mais ça veut dire aussi que les ennemis de Jésus deviennent nos ennemis. Bon, ça veut dire qu'on a du combat avant d'être réunis avec Christ aussi. Faire alliance avec Dieu, ça veut dire entrer dans le combat dans lequel on est dans ce monde. Et c'est souvent pour ça, vous savez, quand on se convertit, avant ça allait très bien, tout allait bien, puis d'un coup, c'est l'horreur. C'est normal, parce que on a changé d'ennemi, on a des nouveaux ennemis spirituels et qui ne sont pas très contents de notre positionnement avec Christ. On peut se rappeler ça dans les moments où on sombre, où on a la tête sous l'eau, en fait, d'entendre la voix de Jésus qui nous dit « Mais je suis l'ennemi de tes ennemis, et je vais venir et je vais combattre avec toi. En troisième, il y avait un sacrifice pour une alliance, pour célébrer une alliance dans l'Ancien Testament. Et donc, Jésus est devenu le sacrifice dans l'alliance qui a été conclue pour nous. Hein, nous on se souvient de Genèse au chapitre 15 qui nous raconte comment Dieu fait alliance avec Abraham. Et donc, Abraham va découper un animal en deux et puis Dieu va passer au travers de l'animal qui était séparé en deux. Et en fait, nous, ça nous semble un peu ésotérique comme chapitre, mais ça avait un sens très clair dans la culture de cette époque. En fait, les gens qui faisaient alliance à l'époque d'Abraham, ils découpaient un animal en deux comme ça, ils passaient au milieu. Et en fait, ce que ça voulait dire, c'est que si je ne respecte pas notre alliance, eh bien, que je devienne comme cet animal. C'est quand même fort. Si je ne respecte pas les conditions de cette alliance, ben moi aussi, je vais être découpé en deux. Et Dieu va passer au milieu de cet animal et s'engager envers Abraham. À partir du moment où Dieu fait ça, Abraham est sûr que Dieu va accomplir les promesses qu'il a faites envers lui, qu'il a faites. Donc un sacrifice. En quatrième, dans une alliance, il y a des marques. Alors qu'est-ce que ça veut dire des marques ? La coutume, quand David et Jonathan ont fait alliance l'un avec l'autre, c'est qu'ils se sont coupés la paume de la main avec un couteau et ensuite ils versaient un peu de cendre sur cette plaie. Et donc quand la plaie cicatrisait, on voyait la marque sur la main. En fait, cette marque sur la main, c'était un signe visible de l'alliance que David et Jonathan avaient conclue. En fait, à l'époque, les gens ils se saluaient pas en se serrant la main, ils se saluaient en levant la main comme ça. Et donc, ça veut dire que s'ils saluaient un partenaire d'alliance, c'était un moyen de dire « je me souviens qu'on a fait alliance tous les deux ». Et s'ils saluaient quelqu'un qui pouvait être un ennemi potentiel pour eux, s'ils levaient la main et qu'ils montraient la coupure sur leur main, c'était un moyen de signaler à la personne en face de dire « attention, je suis membre d'une alliance. Si tu m'attaques, tu vas avoir affaire à d'autres personnes que moi-même. » C'est rigolo hein, d'ailleurs que du coup on est aussi des marques finalement dans le mariage. Hein, j'en ai une jolie à mon doigt, qu'on appelle une alliance d'ailleurs. Mais c'est aussi une marque en fait. Hein, je sais pas si, alors je vous confie ma vie trépidante, mais comme j'ai cherché longtemps à me marier, cette alliance, elle est très importante maintenant que je voyage aussi encore beaucoup. Et puis, voilà, des fois, je la montre très ostensiblement quand il y a des jeunes femmes qui viennent me voir avec des idées un peu derrière la tête. Et, voilà, j'essaie de montrer en fait que, en fait, c'est pas possible. Je suis membre d'une alliance, et donc c'est mort, quoi. Donc cette marque, en fait, elle est importante. Et Jésus, en fait, il a aussi marqué son alliance avec nous. Et ça m'a beaucoup plu, en fait, comme remarque. Mais ben, Jésus porte dans ses mains et dans ses pieds le signe de l'alliance qu'il a conclue avec nous. Imaginez que Jésus siège aujourd'hui sur le trône de gloire. Et quand il regarde ses mains, il se rappelle l'alliance qu'il a conclue avec nous. Et puis la dernière étape d'une alliance, c'est un repas. Et l'ancienne cérémonie pour faire alliance à l'époque, ça impliquait un repas de pain et de vin partagés, où les deux partenaires de l'alliance se donnaient les éléments l'un à l'autre. Ils se donnaient le pain et le vin l'un à l'autre, et ça leur permettait de signifier l'alliance qui se produisait entre eux. Et ça donne aussi tout un nouveau contexte un petit peu à la Sainte Cène, au repas que Jésus va partager avec ses disciples, où en fait c'est un repas d'alliance. Et d'ailleurs Jésus va dire « mais ceci est mon corps et ceci est mon sang donné pour vous ». Dans le mariage, hein, quand on se marie, on échange un morceau de gâteau puis un verre de quelque chose, de champagne ou je ne sais pas quoi, puis on essaie de faire boire l'autre. En fait c'est un symbole aussi qui rappelle cette ancienne coutume. Et c'est pour ça en fait que les symboles du baptême et de la Sainte Cène sont importants pour nous en tant que chrétiens. Les symboles du baptême, ils nous rappellent ce sacrifice que Jésus a accompli dans son alliance envers nous. Et puis la Sainte Cène, c'est ce repas de l'alliance qu'on répète et qu'on réaffirme, où on rappelle l'alliance que Christ a effectuée envers nous et que nous avons effectuée envers lui. Je voulais rappeler ces quelques points en fait sur l'alliance, parce que c'est une dimension qu'on oublie Souvent, puis on retombe très facilement en fait dans nos milieux chrétiens dans un évangile basé sur les œuvres et sur ce qu'on fait. On a l'impression que Dieu va être content si on fait bien, fâché si on fait mal, et que du coup, ben, des fois il est content, alors ça va bien pour nous, des fois il est fâché, ça va pas bien pour nous. Et même en tant que chrétien évangélique, bien charismatique, on a tendance à retomber dans ce fonctionnement-là, même si on a le bon discours, en fait, à l'intérieur, on a l'impression que oui, mais j'ai pas assez lu ma Bible, oui, mais j'ai pas été à telle réunion, oui, mais... Et en fait, on se laisse si facilement enfermer encore aujourd'hui. Et j'avais envie de vous proposer, pour finir cette soirée, juste de pouvoir prendre un petit temps pour louer Dieu, prier, et puis renouveler l'alliance que nous avons conclue envers Dieu. Et juste dire, Seigneur, je me souviens que tu as conclu une alliance avec moi. Et je veux te rappeler que je te dis oui, et que je me place au bénéfice de cette alliance que j'ai conclue avec toi. Et que du coup, si j'ai des ennemis, tu vas venir me défendre. Que si j'ai besoin de toi, tu seras à mes côtés. Que c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et si ça vous va, j'avais envie de finir simplement cette soirée en se plongeant à nouveau dans cette alliance que Dieu a établie avec nous. Ça vous va ? Ouais ? On va se lever alors.